Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Alors, les livres des chroniques sont deux livres très utiles pour comprendre toute la portée de l'organisation de la louange dans l'Ancien Testament. Et puis, bien sûr, ça a des conséquences dans le Nouveau Testament et dans la vie de l'Église aujourd'hui. Donc, David, il avait compris quelque chose. Et je crois que c'est vrai que c'est un personnage fondamental dans la Bible, dans la parole de Dieu, par rapport à la louange. On connaît son début d'histoire, hein, début de sa vie. David était berger. Il était dans la tribu avec ses frères, avec son père. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il gardait les moutons. Alors, on n'a encore pas commencé. On va lire dans Chronique. Pour le moment, je fais l'introduction. Donc, l'introduction, c'est que David, avant d'être roi, il était berger. Et David a déjà commencé à composer et à jouer. Comme la plupart des gens qui sont musiciens, ils n'attendent pas d'être adultes à 25 ans pour commencer à jouer. Ils commencent déjà en tant qu'enfant. David était jeune, gardait ses moutons de son père, avec sa harpe, probablement, en train de jouer, parce que le temps, elle est longue. Si t'es toute la journée au champ, attendre, hein. Puis les moutons, des fois, ils bougent, puis des fois, ils bougent pas. Ils sont là en train de paître. Qu'est-ce que tu fais? Et David, on peut le voir dans le psaume 8, il dit, quand je regarde le ciel, quand je contemple les étoiles, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Ça, c'est un psaume de David. J'imagine qu'il est là, appuyé contre un arbre, avec sa harpe, et puis ses moutons sont là, paissent, et il voit le ciel, il voit la nature, il voit les étoiles, et il chante, et il compose. Donc, il adore Dieu. Et quand il y a l'épisode du prophète Samuel qui vient, vous connaissez cette histoire, hein, il vient chez son père, chez Jessé, il appelle, il veut oindre le futur roi. Personne pense à David, ils pensent tous à quelqu'un d'autre, même le père se trompe. Puis finalement, David arrive. Ah oui, bien sûr, il y a le petit frère qui est encore là-bas au champ. Il vient et il reçoit l'onction de Dieu, il est jeune. Il n'a encore rien fait comme miracle, mais quand même, Dieu reconnaît son cœur. Je crois que ce cœur qu'il avait, c'est un cœur d'adorateur et de serviteur. Et Dieu l'appelle. Ensuite, il y a le combat contre Goliath, on connaît l'histoire. Il remporte, etc. Puis ensuite, il attend encore longtemps avant d'être roi. Hein. Et Saül est toujours là, et Saül fait bien des bêtises. Et ensuite, il est persécuté par Saül, il est combattu. Donc, ça doit être des années difficiles. Mais des années de formation où David forme son caractère. Et pendant tout ce temps, il est formé, il se prépare. Et un jour, finalement, Saül est écarté et David est appelé à être roi. Et c'est là qu'on arrive et c'est là que c'est intéressant. Parce que David, tout ce qu'il a compris avant, il va l'appliquer en tant que roi. Et c'est pour ça que c'est très important pour nous aussi. Quand Dieu nous prépare une tâche, quand il va nous mettre dans la tâche, c'est pas là qu'on doit apprendre. On a appris avant. Mais quand tu es dans la position d'autorité, c'est là où tu dois exercer les choses que Dieu t'a apprises. Donc, David, au moment où il est roi, la première chose qu'il veut faire, c'est amener l'arche à Jérusalem. Parce qu'il a compris, et il sait que l'arche, ça représente la présence de Dieu. Et il a compris qu'il veut pas dominer et régner sans la présence de Dieu. Ça, c'est une clé pour nous tous. Hein. Quelle que soit notre position. Tu peux essayer de le faire avec tes forces, avec tes capacités, mais tu peux essayer de le faire avec Dieu et ça ira beaucoup mieux. Ce sera beaucoup plus juste. Donc David, il a un but, il veut ramener l'arche à Jérusalem. Et il se prépare pour ça. Et surtout, il veut que Dieu soit honoré comme il le mérite. Hein? Parce que Saül, il avait vraiment perdu un petit peu le fil et il avait oublié tout cela. Donc, il commence dans 1 Chronique 6, on va lire. Verset 31-32. David commence à choisir des gens. Il choisit des gens et il les appelle. Verset 31. Voici ceux que David établit pour la direction du champ dans la maison de l'Éternel depuis que l'arche eut lieu, un lieu de repos. Ils remplirent les fonctions de chantre devant le tabernacle, devant la tente d'assignation, jusqu'à ce que Salomon ait bâti la maison de l'Éternel à Jérusalem et ils faisaient leur service d'après la règle qui leur était prescrite. Voici ceux qui officiaient avec leurs fils. D'entre les fils des Kéatites, d'Éman le chantre, fils de Joël, fils de Samuel. Et puis on a toute une liste de prénoms et de noms. Donc je vous passe. Et puis verset 48, leurs frères les Lévites étaient chargés de tout le service du tabernacle de la maison de Dieu. Donc on a une liste de gens ça montre que Dieu s'intéresse à des gens précis, que Dieu appelle les gens par leur nom. Hein, ça, vous le savez. Dieu, il veut pas juste un groupe comme ça, vague, mais des gens précis, et il les appelle de leur nom. Oui? C'est verset 31 à 48. Mais je sais que ces versets-là, selon la traduction de la Bible, ont été inversés. Ça peut être le verset 16 et 17. C'est une autre version. Ils ont inversé les versets de ce chapitre 6. 16 et 17. C'est bon? Tu as trouvé là, hein? Donc, c'est quoi comme version que tu as là?
Summer.
Voilà, d'accord. Donc, ils ont inversé deux ou trois versets dans ce chapitre. En tout cas, ils sont toujours là. Alors, David choisit des gens et les établit pour leur donner un rôle. Vous allez louer, adorer dans le temple. C'est votre rôle. Pourtant, c'est bien mis avant que le temple soit construit, avant que Salomon ait fini son œuvre. Donc, il a un but, il a une vision. Bien sûr, c'est un récit historique qui cite ce qui s'est passé. Mais pour le moment, l'arche vient d'arriver, mais il n'y a encore pas le temple. Le temple n'est pas encore prêt. Et pourtant, il commence déjà à louer. Et ça, c'est intéressant par rapport à toute vision que Dieu pourrait vous donner sur une nouvelle œuvre, sur une nouvelle chose à faire, avant de dire, vous savez, des fois, les hommes, on veut construire avant que ça se passe. On veut faire un beau bâtiment, puis on espère qu'ensuite, on va mettre la présence de Dieu. Mais là, il y a déjà la présence de Dieu, puis ensuite, on construit le bâtiment. Donc, si tu es en groupe de prière où il y a la présence de Dieu, ensuite, peut-être que ça va devenir une église, mais commence pas par construire un bâtiment de pierre, puis dire, je vais le remplir. Commence pas à établir des hommes, des femmes qui sont en relation avec Dieu. Et pour ça, il n'y a pas besoin de bâtiment, il n'y a pas besoin de mur. On peut se retrouver dans une maison, dans la nature, dans n'importe quel endroit. Mais on commence par les hommes, les personnes qui portent la présence de Dieu. Et David fait cela. Donc, il se prépare, mais c'est clair que l'arche, elle n'est encore pas là. Attention, l'arche, elle était à côté. D'abord, il n'y a pas très longtemps, les Philistins l'avaient prise. Hein. Les Philistins s'étaient emparés de l'arche. Et ça a créé un gros problème. Et ensuite, ils l'ont ramenée en Israël. Et ensuite, il veut la ramener à Jérusalem. Donc, David, sa vision, elle est claire. Je veux la présence de Dieu à Jérusalem, au milieu de ma ville sainte, de ma ville où je vais diriger. Donc, il commence, mais ça commence pas très bien. Chapitre 13, ils veulent apporter l'arche. Hein? Et en apportant l'arche, il veut se dépêcher. David, il est tellement pressé que cette arche arrive qu'il la met sur un char avec des bœufs, alors que Dieu avait dit qu'il fallait la porter de main d'homme. Et à la vitesse du pas. Donc, il danse, il se réjouit, s'y amène. Et puis, donc c'est verset 8, chapitre 13. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant, jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Donc, la louange était en place, ils étaient motivés. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment. Puis David, verset 12, eut peur de Dieu en ce jour-là. Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu? Donc il commence quand même à réfléchir. Il se dit, bon, mais j'ai mal agi. En même temps, il est fâché. Des fois, on est fâché contre Dieu, mais c'est nous qui avons fait l'erreur. Hein? Parce qu'on n'a pas fait ce que Dieu nous demandait, on n'a pas respecté ses principes. Et il y a des conséquences à la désobéissance. Et l'arche, elle reste chez Obed-Edom. Et verset 14, l'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Edom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Edom et tout ce qui lui appartenait. Donc là, on voit encore une fois la bénédiction de l'arche de Dieu. La présence de Dieu amène la bénédiction. Cette maison est bénie. Et David, il observe et il voit. Et en même temps, il y a eu cette conséquence. En même temps, Dieu bénit toujours sa présence. Donc David se prépare. Verset 14, 15, chapitre 14, chapitre 15. Préparatif pour l'arrivée de l'arche à Jérusalem. Donc, il continue de se préparer et de vouloir faire venir cette arche. Donc, verset 2 du chapitre 15. Alors, David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu, pour en faire le service à toujours. Donc là, il a compris. Et il appelle les bonnes personnes à faire le bon travail. Il y en a la liste, encore une fois, de tous ces gens. Verset 12. Vous, les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter à la place que je lui ai préparée l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Donc, c'est clair, il sait ce qu'il veut, puis il leur donne des choses précises. Verset 14. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères, les chantres, avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Donc c'est clair, les Lévites sont appelés. Les Lévites, dans l'Ancien Testament, c'est une des 12 tribus, et c'est la tribu qui est appelée au sacrifice dans le temple, au travail dans le temple. Donc c'est les musiciens, c'est les chantres, mais c'est aussi les gens qui font du travail pratique, qui nettoient le temple, qui offrent les sacrifices, qui amènent l'encens, qui purifient l'eau, qui préparent tout le travail de la louange, de l'offrande. C'est une tribu mise à part. Et David leur donne des consignes précises, se purifier, se préparer, et aussi jouer des instruments d'une manière précise. Et même verset 22, Kenania, chef de musique parmi les Lévites, dirigeait la musique car il était habile. Donc il y a un chef, il y a un responsable. Et là on apprend des principes tout simples, que Dieu délègue l'autorité à des hommes, à des personnes, et qu'ensuite ces hommes-là, on peut déléguer à d'autres. Mais que c'est important que chacun soit à sa place avec ses dons. Kenania est un musicien avec des dons, des capacités, et c'est pour ça qu'il dirige la musique. Vous avez déjà essayé de faire diriger la musique par quelqu'un qui ne sait pas jouer, hein? C'est très vite la catastrophe, hein? Il part faux, il chante faux, le rythme n'est pas en place, et puis au bout de 30 secondes, plus personne n'arrive à chanter. À cause d'une personne qui fait mal la chose. Ou dans l'autre sens, si quelqu'un dirige bien, une personne peut amener 1000 personnes à chanter juste et bien, parce qu'il corrige bien, parce qu'il dirige bien, parce qu'il amène cette direction avec ses capacités. Donc là, David reconnaît le don, et l'appelle à servir avec ce don. Et ensuite, enfin, ils amènent l'arche, elle arrive tout près de Jérusalem, ils se réjouissent. Hein. On lit versets 25 à 29. David et les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obed-Edom au milieu des réjouissances. Donc ils l'ont pris là où ils l'avaient laissé, chez Obed-Edom, et ils l'amènent. Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel et l'ont sacrifié à 7 taureaux et 7 béliers. Donc, ils s'arrêtent, ils font les sacrifices, ils observent les lois comme elles étaient demandées dans l'Ancien Testament. Et ils savent que c'est Dieu qui est là pour les aider. David était revêtu d'un manteau de byssus, il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche des chantres de Kenania, chef de musique parmi les chantres, et David avait sur lui un éphod de lin. Donc David, il s'implique, et je trouve que c'est très intéressant, il est roi, et pourtant, il s'implique dans la prière, dans la louange, dans l'adoration et dans ce sacrifice. Vous savez, des fois, quand les gens ont des responsabilités, tout d'un coup, ils se retirent. Ils s'asseyent sur le trône et ils observent les autres faire. Je ne crois pas que c'est le rôle d'un pasteur, d'un apôtre, d'un responsable, de s'asseoir. Au contraire, c'est d'être en chemin avec les autres et de montrer l'exemple. Comme Jésus, être un roi serviteur. Hein? Avoir cette position d'autorité, ça va se manifester quand tu vas être avec les autres. Et David, il n'a pas peur de montrer l'exemple. Tout Israël, verset 28, fit monter l'arche de l'Alliance de l'Éternel avec des cris de joie, au son des clairons, des trompettes, des cymbales, en faisant retentir les luttes et les harpes. Vous imaginez le son que ça devait faire, hein? Mais c'est pire qu'un carnaval, c'était des centaines, des milliers de personnes qui jouaient, avec des trompettes, vous avez déjà entendu jouer une trompette, mais vous mettez 50 trompettes, vous mettez 100 trompettes, mais c'est plus qu'une sonore, hein? C'est très très fort. Et puis ils étaient là. Et les cymbales, quand tu tapes sur une cymbale, ça fait du bruit. Vous imaginez qu'il y a 100 cymbales, ou même 500. Ils étaient des centaines, des milliers d'instruments à jouer ensemble. Donc c'était, on devait les entendre à des kilomètres. Hein? Tout le monde devait entendre. Donc Dieu a pas peur du volume. Hein? Dans certaines églises, il dit toujours, moins fort, moins fort. Il y a des fois où il faut mettre le volume pour célébrer Dieu. Hein? Des fois, j'ai dit. Hein? Parce qu'il y en a d'autres, c'est tout le temps à fond. Hein? Bon, c'est un autre problème. Ensuite, en tout cas, ils avaient de l'énergie, de la réjouissance et du volume. Comme l'arche de l'Alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre et voyant le roi David sauter et danser, elle le méprisa dans son cœur. Vous connaissez cette histoire, hein? Ça, c'est assez tragique. Vous avez toute la description aussi dans 2 Samuel 6. On peut lire le même texte. Je vous passe les détails, mais vous pouvez le noter comme référence. Quand même, l'importance de voir que David, il loue, et Michal, elle loue pas, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle méprise, elle critique. Et j'ai constaté aussi ça dans la réalité, la vie de l'église. Soit tu loues, soit tu critiques. Je résume un petit peu facilement, mais en même temps, je suis sûr que c'est la réalité, et c'est ce qui se passe très souvent. Si tu loues, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu loues. C'est-à-dire que tu bouges, tu pries, tu chantes, tu es actif dans la louange. Donc, tu penses à ce que tu fais. C'est-à-dire, à bénir Dieu, à louer Dieu, à le célébrer. Quand tu loues pas, tu regardes. tu croises les bras et tu observes. Tu dis, mais c'est bizarre. Pourquoi il chante comme ça, lui? Puis lui, pourquoi il danse? Puis pourquoi à la sono, ils ont fait ça? Et pourquoi ce musicien, il a mis cet habit-là? Et pourquoi cette personne-là, elle est assise? Et tu te mets à observer tout. Tu es comme une caméra, tu observes tout et tu détruis tout. Tu détruis tout, tu es spectateur, tu analyses et tu critiques. Et le problème, c'est que c'est celui qui critique qui est critiqué par Dieu. Parce que dans 2 Samuel, il a dit que la conséquence, c'est que Michal n'eut point d'enfant jusqu'à sa mort. Stérilité, mort. Donc, je crois qu'aujourd'hui, malheureusement, dans nos églises, parfois, il y a une mort spirituelle qui s'installe à cause de la critique. On critique, on condamne l'œuvre de Dieu. On passe notre temps à analyser, à dire pourquoi ça, pourquoi il fait ça, il ne doit pas faire ça. Et on n'avance pas dans la louange. À un moment donné, si tu veux entrer dans l'adoration, dans la louange, tu oublies tout. Et David, c'est incroyable parce qu'il est roi. Et comme je le dis, il n'est pas resté assis sur son trône. Il était dans le cortège, et tellement dans le cortège qu'il oublie sa position. Il oublie son rôle. Hein. Il danse. Et dans 2 Samuel 6 aussi, il est dit qu'il danse tellement qu'il était à moitié nu. Donc il a dû transpirer, il avait chaud, il a enlevé une partie, il y avait des habits qui ont déchiré, tellement il a sauté. Quand même, un roi, ça fait pas ça. Hein. Quand même, le pasteur, je trouve qu'il devrait rester tranquille là. Assieds-toi, pasteur. Tu bouges trop là, tu nous déranges. Mais si le pasteur bouge, tout le monde va bouger. Parce qu'on voit l'exemple, le leader bouge, on a envie de bouger. Mais si le pasteur il est fatigué, les bras croisés, attendant que la louange soit finie, il dort un petit peu avant son message, ça va pas donner envie à l'église de louer. Hein? Exactement. Donc il faut vraiment que les responsables montrent l'exemple. Les musiciens, les chantres, les lévites et même les leaders, les pasteurs, les rois, les prêtres, les chefs. Donc David, il y va, il n'a aucun complexe, il montre l'exemple. Et regardez ce qui se passe. Après qu'on eut amené l'arche, c'est le chapitre 16, ça continue. On plaça au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Donc il n'y a pour le moment qu'une tente, il n'y a encore pas de temple. Ils font une fête alors que le temple n'a pas encore commencé. Mais ils font une fête pour Dieu. Et ça c'est la clé. On ne fait pas une fête pour les pierres, pour le bâtiment. Hein? On fait une fête pour Dieu. Alors même si vous avez construit une nouvelle église merveilleuse, fêtez le Seigneur, pas le bâtiment. On offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Quand David eut achevé d'offrir l'holocauste et sacrifices d'action de grâce, il bénit le peuple au nom de l'Éternel. Puis il distribua à tous ceux d'Israël, hommes et femmes, à chacun un pain, une portion de viande, un gâteau de raisin. Donc c'est la grande fête, il offre des sacrifices, il donne beaucoup, il offre même des cadeaux aux gens. Ils sont heureux, ils sont contents. C'est un signe de la grâce de Dieu quand tu donnes aussi des cadeaux, toi. Et il remit à des lévites la charge de faire le service devant l'arche de l'Éternel, d'invoquer, de louer, de célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est ce que j'appelle l'institution du rôle des lévites. C'est officiel. Devant tout le peuple qui est là, parce qu'ils sont tous là. Maintenant, je vais vous dire, il y a, verset 5, Asaph le chef, Zacharie le second, après lui, Jehiel, Shemiramoth, Yehel, Matitia, Eliab, Benaya, Obededom et Yehel. Des jolis prénoms, si vous cherchez pour vos enfants. Bonne liste. Donc, il amène tous ces hommes-là devant, sur la strade, sur la scène, et dit, voilà, regardez, Asaph, c'est le chef, Zacharie le deuxième, etc. Et ils avaient tous des instruments de musique, ils arrivent avec leurs instruments, ils montrent qu'ils avaient construit, hein. Asaph faisait retentir les cymbales, et ils avaient des luttes et des harpes. Les sacrificateurs, Benaïa, Jacques, Aziel, sonnaient continuellement des trompettes devant l'arche de l'Alliance de Dieu. Donc pendant ce temps, il y en a qui sonnent des trompettes. Voilà. Et verset 7, la clé, ce fut ce jour que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de célébrer les louanges de l'Éternel. Il délègue son autorité à la louange, aux Lévites. Il dit, maintenant, les Lévites, c'est votre travail. Vous allez louer Dieu devant l'arche de l'Alliance. Pour le peuple, vous êtes appelés, consacrés. Et c'est tellement important de libérer les gens dans leur ministère, dans leur don, et de prier pour eux. Et moi, j'encourage toutes les églises à faire ça au moins une fois, si ce n'est pas tous les ans, tout régulièrement. Priez pour le groupe de louanges, faites-les venir devant et bénissez-les et reconnaissez leurs dons. Ça va les libérer dans leur ministère. Hein? Disant, oh là, on délègue une responsabilité spirituelle. Ce n'est pas juste des musiciens qui occupent la scène comme ça pour, en attendant qu'il se passe quelque chose. C'est un ministère, c'est une autorité. Et les gens sont là avec leur nom, avec leur identité, avec leur autorité. Et David les reconnaît, David les bénit et David les appelle. Et encore une fois, David montre l'exemple. Et ensuite, il y a un psaume, et je terminerai par ça. C'est la même chose qu'une partie du psaume 105, qui est décrit là dans ce chapitre 16, à partir du verset 8 jusqu'au verset 36, où David, encore une fois, montre l'exemple. Il cite un psaume. Il loue Dieu lui-même. Il dit pas aux autres ce qu'il doit faire, il le fait. Et dans ce psaume, on a plein de choses qu'il invite les lévites à faire. Hein. Il leur dit, qu'est-ce qu'il faut faire en tant que lévite? Verset 8, louez l'Éternel. Invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ce qu'il fait. Déjà trois choses dans un verset. Verset 9, chantez, parlez. Chantez en son honneur, parlez de ses merveilles. Verset 10, glorifiez. Verset 11, cherchez continuellement sa face. Verset 12, souvenez-vous des prodiges. 14, car l'Éternel est Dieu. Verset 23, chantez, annoncez. Verset 24, racontez. Verset 25, car l'Éternel est Dieu et il décrit Dieu. Verset 28, famille des peuples, rendez gloire, etc. Apportez vos offrandes, adorez Dieu, tremblez devant lui. Donc dans ce psaume, il dit plein de choses. Il donne toute une technique. Qu'est-ce qu'on fait dans la louange? Qu'est-ce que vous allez faire, vous les lévites? Ben, vous allez faire tout ça. Vous allez louer, vous allez publier, vous allez faire connaître, vous allez chercher sa face, vous allez décrire Dieu, vous allez présenter Dieu. Donc c'est un ordre de marche, un exemple du travail qu'ils vont faire. Et ça se termine avec le verset 37. David laissa là devant l'arche de l'alliance de l'Éternel Asaph et ses frères afin qu'ils soient continuellement de service devant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. C'est le début du tabernacle de David. 24 heures sur 24. Nous, on part, mais vous, vous restez là. Les autres vont retourner à leur travail, vont retourner dans leurs activités, mais vous, les Lévites, vous allez rester dans la présence de l'Éternel et vous allez louer jour et nuit. Asaph, tu es le chef. Et tu vas organiser ça avec Zacharie et tous les autres. Et on va voir dans la suite de ce texte tout ce qui va se passer suite à cette institution des Lévites.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.